Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Un jour, une histoire sur la fréquence Flandre 10. Un jour, une histoire, c'est quand la petite histoire, celle de chacun d'entre nous, croise la grande histoire. En compagnie de Hans Landler, on va vous emmener toute cette saison découvrir l'histoire des rues d'Armentières. Patrimoine industriel, faits historiques, anecdotes, vous allez découvrir la cité de la toile grâce au regard de celui qui arpente ces rues depuis de nombreuses années à la recherche des traces laissées par ceux qui nous ont procédé dans cette ville. Bonjour Hans.
Bonjour à tous.
Quelques mots sur le parcours du jour et les rues que l'on va explorer dans l'émission. Nous vous avions laissé, lors de la dernière émission, au milieu de la rue Carnot.
Oui.
Après s'être arrêté un moment sur la Grand Place et devant le monument aux morts de la ville d'Armentières, on vous propose aujourd'hui de poursuivre notre promenade dans la seconde partie de la rue Carnot, celle qui va nous conduire sur la place de la République et après le carrefour de l'avenue en François Mitterrand, mais que tu préfères appeler rue Nationale.
Oui, parce que c'est le nom de départ, la rue Nationale, voire même la rue numéro 42. Hein, c'était comme ça qu'on l'avait appelée à l'époque.
Et puis, on s'arrêtera enfin à l'hôpital d'Armentières, oui. Dans la rue juste devant l'hôpital d'Armentières. Et puis, quelques rues plus tard. On se retrouve dans un petit instant et on vous emmène donc en promenade dans cette deuxième partie de la rue Carnot.
Les bras comme les...
La rue qui nous intéresse aujourd'hui, mon cher Hans, c'est la rue Carnot,
oui.
Dans laquelle nous allons continuer à nous promener tout au long de cette heure. Alors, cette rue Sadi Carnot, on va évoquer une petite polémique, tu sais que je les aime bien. On l'appelle la rue Sadi Carnot parce que Sadi Carnot était un président de la République française.
Tout à fait, oui.
Qu'il a été assassiné en 1894. Et c'était courant à l'époque qu'on nomme les rues de personnes qui avaient personnages historiques, même s'ils avaient été assassinés.
Oui, c'est courant. Puis c'est même d'ailleurs dans le temps, ça a toujours été un peu fait comme ça. Quand il y a eu à l'époque la mort de Kennedy à Dallas, on a rappelé la rue Kennedy à Armentières. On a mis une rue Kennedy. Non, c'est une anecdote. Alors, enfin, c'est une anecdote. C'est surtout une habitude en fait des municipalités qui, pour présenter le fait qu'il y a eu quelqu'un qui a servi la France ou qui était important dans le monde, est mis en avant dans une rue. C'est traditionnel.
Alors, on voit dans les archives de la ville, mais tu vas nous détromper, que dans l'inventaire des rues, on avait utilisé le nom de Lazare Carnot pour cette rue en 1900. On trouve ça dans l'inventaire des rues, l'année 1900. Mais toi, tu penses fortement que c'est une erreur de transcription.
Complètement, c'est une erreur. Parce que, bon, Lazare, c'est déjà... Alors, même si ça peut être le père de M. Sadi
Carnot. Alors, moi, j'ai trouvé un Lazare Carnot qui était le grand-père de Sadi Carnot.
Oui, oui. Alors, c'est pas... Enfin, ça peut arriver aussi déjà qu'il y ait des erreurs. C'est arrivé assez régulièrement dans le cadre des rues. Ensuite, il faut savoir que la rue Sadi Carnot a été compliquée parce qu'au départ, donc, quand elle est ouverte en 1862, elle est percée. Beaucoup d'Armentières-Bois ne vont pas l'appeler la rue Sadi Carnot. D'abord, elle s'appellera la rue des Écoles. Quand elle va dépasser la partie de la rue nationale, elle va s'appeler la rue des Écoles après, en fait, celle qui continue prolongée, donc la rue des Écoles prolongée, qui va aller jusque, finalement, l'hôpital d'Armentières.
Mais d'où ce surnom de quartier des Écoles aujourd'hui.
Qui continue à perdurer. Et puis surtout parce que on a créé plein d'écoles sur ce secteur-là, en tout cas dans ce quartier. Et pour la petite anecdote, les Armentiérois trouvaient ça... pas facile de dire la rue des Écoles. Du coup, il disait la rue d'Anzette. Alors, pourquoi la rue d'Anzette? Tout simplement parce que c'était le maire d'Armentières, de Anzette, qui avait voulu percer cette rue-là. Alors, les Armentières-Rois, par rapport à l'anecdote qu'on a citée au premier épisode, où...
Alors, on rappelle d'ailleurs que le percement de cette rue, ce n'était pas fait sans une petite polémique aussi.
Il y a une grosse polémique, même une grande à l'époque. D'Anzette, qui avait sa maison, qui est aujourd'hui la Société Générale, de la Banque de la Société Générale, ne voulait pas qu'on perce dans cette rue. Parce que justement, enfin, en tout cas, on perce sa maison parce qu'elle lui appartenait. Donc, il a demandé à ce qu'on détruise plutôt l'hôtel à côté. Et qui a fait que, quand aujourd'hui on regarde la rue de la rue Saint-Va, qui à l'époque s'appelait la rue de l'Humanité, elle n'est pas face de la rue Sadi Carnot, parce que tout simplement, c'est Danzette qui n'a pas voulu qu'on détruise sa propre maison, en soi disant que ça allait trop onéreux et qu'on ne pourrait pas payer tout ça pour une petite municipalité. Or, du coup... faire une anecdotique.
Oui, comme ça avait dû faire le buzz, on a appelé cette rue la rue d'Anzette.
Les gens faisaient esprit d'appeler ça la rue d'Anzette, pour dire que c'était sa propre rue qu'il avait voulu inventer. Donc du coup, c'est pas d'aujourd'hui qu'on ait des erreurs. Donc faut savoir que Sadi Carnot était né en 1837, donc il est mort en 1894, il a été tué par un anarchiste italien. Ça avait sûrement, pour l'époque, fait pas mal d'émotions en ville. Et puis, donc, vu que ça avait été assez expliqué dans les journaux, on avait mis ça en avant en disant « c'est terrible, un président de la République qui se fait assassiner ». Donc, ça a été très mis en avant. Et du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de l'appeler la rue Sadi Carnot.
À l'époque, ils se faisaient assassiner, ils n'allaient pas en prison.
Oui, tout à fait. Ils n'allaient pas en prison, c'est aussi la journée.
Alors, ce qui est curieux dans cette rue, c'est que... Il y a une architecture assez variée, puisque ça va de l'art nouveau à l'art déco ou régionaliste.
Oui. La rue Sadi Carnot, elle a été créée toute pièce, en fait, puisqu'elle est dans ce qu'on appelle la partie du quartier Notre-Dame, qui est au départ des grandes pâtures très belles, avec la rivière du Craché qui se présentait dedans. C'est surtout une rue donc, qui a été construite dans une idée de rapprocher, en fait... une partie un peu de la bourgeoisie armentiéroise. Donc il y a aussi d'ailleurs, on va le voir plus tard, plusieurs banques qui vont s'y installer. On a la Banque de France qui s'y installe au début du XXe siècle. On a aussi la Banque de France, la Banque du Nord, donc régionale du Nord, qui est une banque qui est aussi particulière. Et donc, il y a pas mal de maisons qui vont se construire après ce qu'on appelle la place de la République et rue des Écoles prolongée. On appellera plus tard, les Armand-Charrois vont appeler ça la rue des petits châteaux, parce qu'il y a plein de petits châteaux qui vont s'y construire, enfin des châteaux, des grandes maisons de maîtres, où on a au moins 5 ou 6 personnels qui s'occupent des maisons, et tout ça pour dire que va faire une certaine, je dirais pas une jalousie, mais en tout cas, la maison des patrons, c'est là, et nous, les ouvriers, on est dans un autre secteur, puisqu'on va créer des petits quartiers qui seront aux alentours, comme le quartier des Prés du M, par exemple, ou la partie du quartier des Chauffours, qui sera complètement ouvrier et ouvrière.
Et c'est ce qui explique donc cette variété de style architectural avec des architectes qui d'ailleurs sont des architectes lillois le plus souvent.
La plupart du temps sont de Lillois, ils sont assez connus.
On parle de Charles Bourgeois, de Jean-Baptiste Maillard.
C'est des grands de l'époque qui travaillaient beaucoup sur Roubaix et Tourcoing et qui se sont rapprochés sur Armentières parce que la demande était assez grande et surtout qu'il y avait de l'espace pour pouvoir le faire. Donc c'était ça qui était, pour en tout cas, la petite bourgeoisie armentiéroise intéressante.
C'est une façon d'être reconnu, de faire appel à
l'architecte. Il faut montrer devant. Après aussi, il faut le comprendre, ça fait partie aussi dans le système de l'industrie armentiéroise du textile. Souvent, on construisait automatiquement le bâtiment industriel et à côté, on mettait ce qu'on appelle la maison du patron, qui était quasiment devant. Mais avec l'effervescence du textile qui va arriver à la fin du 19e siècle, on n'a plus le temps de pouvoir construire la maison du patron. Donc, on va se retrouver dans les quartiers de Sadi Carnot qui va être créé de toutes pièces. Et on va mettre ces maisons-là et on ne mettra plus en avant la maison du patron. Mais il y a encore des endroits, comme par exemple, on peut penser à la firme Salmon, qui est rue Jules Le Bleu, où on voit encore la maison du patron et devant. Et derrière, il y a toute l'usine. Chez Mailleux, par exemple, qui est rue des Déportés aujourd'hui, il y a la maison du patron. Et derrière, il y avait son usine. C'était une tradition, en fait. On savait que le patron vivait là, il dormait là, le concierge était à côté. Et donc, quand les ouvriers allaient travailler, ben, le patron voyait ses ouvriers. C'était un peu une forme familiale, en fait.
Et d'ailleurs, souvent, les ouvriers habitaient également autour de l'usine.
Tout à fait. Il y avait D'ailleurs, les maisons étaient créées par les patrons. On appelle ça des 1930. Qu'on mettait en fait un peu comme les corons, à part que là, c'est des corons textiles, c'est pas des corons pour les mines. Et on installait cette petite maison tout autour qui était payée donc, par le patron, construite par le patron, et qui était allouée à l'ouvrier. Comme ça, l'ouvrier pouvait venir avec sa famille. Et alors, c'était un certain confort. Même aujourd'hui, on se rend compte que ces maisons qui ont eu quand même une époque des années 30 ont été construites dans avec des bons matériaux, ce qui fait qu'aujourd'hui, elles sont encore assez prisées et elles sont représentatives. Bon, alors, au départ, les toilettes n'étaient pas à l'intérieur, c'était toujours au fond du jardin. La cuisine finissait par être une salle de bain juste à la suite. Et après, on avait au fond du jardin ce qu'on appelle les toilettes. Mais après, avec le temps, ça s'est modernisé. Mais aujourd'hui encore, on peut voir des maisons 1930 assez prisées et qui sont très belles et qui représentent un peu cette période un peu familiale qui existait au sein du patron dans le textile.
Et souvent, au bout de chacune de ces rues, il y avait un café.
Oui, alors
où
ça,
les ouvriers pouvaient.
Le café, il faut imaginer que c'est le seul endroit où l'ouvrier puisse se détendre. Donc, quasiment, la sortie se faisait vers 19h, 19h30.
Dans chaque rue, quasiment.
Tous les coins de rue faisaient un café. D'ailleurs, le mot café ou estaminet n'est pas le même qu'aujourd'hui. Un café, à cette époque-là, il ne fallait pas beaucoup de papier administratif pour le créer. Le type créait, en fait, ouvrait sa maison.
Il mettait une petite table devant,
trois tonneaux, parce qu'on n'avait pas de pression, c'était des bières en tonneaux que Maud Cordonnier ou Droulers ou Les Cornets ou Brevard fournissaient. Et à ce moment-là, on avait compté à peu près avant 1900, à peu près entre 1900 et 1910, 500 estaminets et bistrots qui existaient dans Armentières. Tous les coins qui étaient sur les rues étaient quasiment des bistrots. Place de la République, il y avait le Café du Sport, il y avait Au Canonnier, il y avait des tas de noms comme ça qui étaient assez anecdotiques, au Fait d'Herbe, j'en passe des meilleurs. C'était assez marrant d'avoir tous les noms, il faudrait énumérer, il y a une quantité incroyable, mais représentatif en fait, du quartier par rapport à l'endroit où les gens venaient boire un verre. Et c'était le seul moment où les ouvriers pouvaient se détendre, c'était important. Alors, ça fonctionnait à cette époque-là par le sifflet de la fin de l'usine. Puisque moi, j'ai un souvenir de témoignages d'ouvriers du textile qui disaient tout fonctionnait par rapport à l'usine. À 19h30, il y avait un sifflement assez important qui annonçait que c'était la sortie de l'usine. Le meilleur moment de l'ouvrier qui sortait. Et ils partaient tous boire un verre, ou alors ils rentraient chez eux, mais souvent ils allaient boire un verre avant, une petite bière, une petite chope, parce qu'il faut comprendre aussi que le travail était très dur dans le textile, hein, puisque on rapporte que. Alors, à la petite histoire, on dit qu'il faisait, c'était dur, mais il faisait chaud, très chaud dans les usines, surtout dans les filatures.
Et le bruit ?
Et il y avait un bruit énorme. Hein, on avait fait une anecdote là-dessus, j'avais travaillé. Il faut imaginer que c'est à peu près un métier à tisser entre 100 et 120 décibels. C'est le même, comment dire, le même niveau qu'un marteau-piqueur. Or, imaginons dans des grandes usines où il y a 300 ou 500 métiers, c'est 500 marteaux-piqueurs en même temps.
Avec des journées de travail qui, à l'époque, faisaient plus de 10 ou 12 heures.
Entre 10 et 12 heures, à peu près, c'était la moyenne. Hein. C'est après 1903-1906 qu'il a commencé un peu à baisser les heures. Mais on avait, jusque dans les années 50, c'était quasiment 10 heures de travail. Hein. Il faut imaginer quand même qu'à l'époque, le seul moment de repos était le dimanche, que les gens bossaient pendant 6 jours sur 7. Et le dimanche, c'était pour aller à la messe, le repos. Mais c'était très important de travailler parce qu'il fallait gagner sa croûte. On ne gagnait pas grand-chose. Hein. C'était quasiment 1 franc ou 1 franc 50 de l'heure. Bon, ça va augmenter un peu pendant la Première Guerre mondiale parce que malgré les obus qui tombaient, il fallait travailler encore. Mais tout ça pour dire que le moment de l'ouvrier, c'était, la sortie était vraiment important pour pouvoir aller se désaltérer à cause donc de la chaleur, de la poussière. Et surtout parce que bah, le travail était très long et ils avaient pas de. Il y avait un sifflement qui se faisait régulièrement à l'intérieur de l'usine du textile, c'était pour changer les bobines. Donc à peu près toutes les heures, il y avait le contremaître passé, il sifflait, et c'était le changement des bobines des métiers à tisser. Donc ça, par exemple, c'était assez important. Tout ça pour dire aussi qu'on ne pouvait pas mettre de casque pour se protéger des bruits, parce qu'on s'était rendu compte, même si ça arrive dans les années 30, on commence à mettre des casques, parce que déjà avec le bruit, on ne s'entendait pas, mais en plus, si on mettait un casque, on n'entendait rien du tout. Ce qui fait que on ne pouvait plus converser avec les ouvrières d'à côté, ce que les filles aimaient beaucoup en fait. C'est pour ça qu'on a beaucoup de nombre en fait de filles d'ouvrières dans les usines de textile, dans les confections, et avec aussi ce principe de base du contremaître qui est toujours un chef d'équipe mâle, qui est un homme en fait, qui représente un peu la supériorité en fait, qui est encore dans cette image d'Épinal où la confectionneuse bosse et l'homme est là pour surveiller. C'est un peu l'image qu'on avait à cette époque-là.
Alors, ces cafés, ces lieux, on aura l'occasion d'y revenir parce qu'on ira se promener un peu plus tard dans la saison dans ces rues des quartiers que tu décrivais à l'instant. Mais c'était aussi des lieux où on parlait de la cité, où est né le syndicalisme, où sont nées les grandes luttes, parce que c'était des lieux où on échangeait les idées, où pouvaient naître des revendications. Voilà.
Tout commence par les cafés, en fait, finalement. On voit, par exemple, pour la Seconde Guerre mondiale, la résistance a commencé dans les cafés. Tout était distribué dans les cafés. On a pas mal d'anecdotes. La Voix du Nord a été distribuée dans les cafés. C'était un peu la tradition. Les premiers réseaux qui se sont faits de résistance sont créés dans les cafés. En fait, il y avait déjà dans les années, au début du XXe siècle, on a des comptes rendus de personnes de municipalités qui disent « Bon, je vais aller au renseignement, je vais aller dans les cafés. » En fait, il suffisait d'aller dans un café au bord de la gare, par exemple, pour savoir ce qui se passait à Lille. Les journaux étaient au courant du gros événement, mais les petites anecdotes, les petites histoires, elles venaient du café. Tout le monde savait. Alors après, il y avait du bon et du mauvais. Mais c'était le lieu où tout le monde se parlait. Il n'y avait pas donc les réseaux sociaux, il n'y avait pas... Le télégramme marchait très peu, le téléphone n'existe quasiment pas. À part l'hôpital où la mairie avait un téléphone, les quelques usines, les chefs d'entreprise avaient un téléphone, c'était tout. Donc le seul moyen de pouvoir converser, c'était le café. C'était le seul endroit où tout le monde se rejoignait et pouvait discuter de tout. Alors, des problèmes du boulot, des problèmes de la vie de tous les jours. Et puis, tu as vu, ils n'ont pas ramené du hareng. Enfin, des choses comme ça. En ce moment, il ne fait pas bon à tel endroit. Du coup, on aura moins de repas comme ça, enfin, de légumes. C'est assez étonnant. Et d'ailleurs, quasiment sur tous les témoignages que j'ai pu lire de l'époque du XXe siècle, c'est le café qui est l'endroit phare.
Alors, dans la rue des Châteaux, comme tu le disais à l'instant, il n'y a pas beaucoup de cafés.
Non.
Peut-être à l'approche de la place sur laquelle on va s'arrêter maintenant, qui est la place de la République, qui apparaît pour la première fois dans les textes autour de 1866. Est-ce que c'est bien la date de naissance de la place de la République ?
Oui, alors oui, parce qu'elle est projetée dans le centre d'une pâture qui s'appelle la pâture du Crachet, qui était une très très belle pâture. Elle est en dehors des remparts d'Armentières, elle est totalement dans une phase où on voit beaucoup de verdure, il y a beaucoup d'arbres, c'est très beau, c'est un beau paysage. Et elle est projetée en 1866 pour créer cette place, avec la même idée de créer aussi l'église Notre-Dame du Sacré-Cœur, qui va arriver quelques années plus tard. Il faut quand même comprendre qu'on va appeler la place de la République pour une anecdote assez étonnante. Ce n'est pas du fait que c'est la République qui est mise en avant, mais c'est le fait que la guerre de 1870 va créer la Troisième République. Et on appelle donc la place de la République par rapport au conflit qui a eu lieu avec les Prussiens en 1870. Ça, c'est un peu une anecdote assez rigolote, un peu étonnante, parce que c'est pas du tout dans le lien avec une histoire de révolution ou quoi que ce soit. C'est la République après la guerre de 1870.
Alors, ce qui est assez amusant, c'est que donc sur cette place créée en souvenir de la guerre de 1870 et pour honorer la République, va quand même mijoter, si je puis dire, les grandes grèves de 1903 oui. et 1904. Et je crois même qu'un certain Jean Jaurès s'est passé par la place de la République.
Alors, non. C'est une fake news. Non, pas du tout. En fait, il n'est pas passé par la place de la République. D'ailleurs, il n'est pas beaucoup passé à Armentières, en fait, finalement. Il est arrivé par la gare d'Armentières. Il a traversé la partie de la rue de la gare qu'en époque il a été jusque la rue Jules Guette, et de la rue Jules Guette il est parti vers Houpline, et arrivé à Houpline il a été à la maison commune de Houpline, et là il a fait son discours. Mais en fait, il n'est pas du tout passé à Armentières. Il devait pas savoir que c'était Armentières parce qu'il était pressé, il était à pied. Il a fait une toute petite partie à pied, après il est remonté dans un fiacre et puis il est parti direction Houpline. Et à Houpline, il a fait son discours. Il n'a pas fait son discours, par exemple, place Jules Guette où il y avait la maison du peuple aussi. Mais à l'époque, c'était surtout à Houpline. Il y avait beaucoup d'usines qui étaient fonctionnelles à Houpline à l'époque, d'usines textiles, et c'était surtout pas surveillé par la police. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand Jean Jaurès arrive en 1903 pour faire son discours, la ville d'Armentières est totalement quadrillée par la police, par l'armée, puisque l'armée va venir intervenir.
À l'époque, le maintien de l'ordre pouvait faire par l'armée et à balles réelles.
D'ailleurs, c'est assez étonnant. Heureusement que Jean Jaurès est arrivé, parce qu'on a eu. À Fourmi, par exemple, ça a été un massacre. Ils ont tiré à balles réelles et surtout à tir tendu sur les manifestants. Or, à Armentières, ça ne s'est pas fait grâce à Jean Jaurès. Et donc, la grève n'a pas eu. Enfin, la grève a continué, mais elle s'est arrêtée avec des accords qui ont été faits entre le patronage et puis les ouvriers, qui ont permis de recontinuer en fait à travailler et surtout à éviter une guerre, en tout cas avec à l'époque avec l'armée, puisque l'armée, les militaires dormaient dans les usines de textile pour empêcher qu'on vienne les piller. Il faut savoir que quand les grèves ont eu lieu en octobre 1903, on va piller toutes les gares, enfin pas toutes les gares, toutes les banques. Les banques vont être pillées, les maisons de patrons vont être pillées, ce qui va faire que ça va beaucoup jouer sur la montée en puissance de la République, qui va décider d'envoyer l'armée pour empêcher le pillage de la ville d'Armentières. À l'époque, c'était surtout parce que le travail était de pire en pire. On faisait travailler les jeunes à partir de 12-13 ans. Les ouvriers avaient des heures impossibles. Certaines usines ne permettaient pas, par exemple, les congés maternité. Ça devenait. Certaines usines étaient bien, comme les usines de Mayeux, par exemple, qui étaient assez représentatives sur un côté familial. Il y avait des caisses de retraite qui étaient faites pour les vieux ouvriers. On avait créé, d'ailleurs, Mayeux avait créé derrière la place de la République et derrière l'église l'hospice Mayeux, qui est assez connu, puisqu'aujourd'hui a fonctionné jusque dans les années 2000, puis aujourd'hui est un bâtiment de logement. Mais avant ça, c'était un hospice pour les personnes âgées, qui était l'hospice Mayeux, créé par Mayeux lui-même, qui était patron, et qui voulait que les vieux ouvriers puissent trouver un endroit pour s'arrêter et pour se reposer. Elles étaient tenues par les bonnes sœurs, d'ailleurs, à cette époque-là, et les sœurs grises. Et du coup, tout ça pour dire que la ville d'Armentières avait quand même différents types d'industrie et de patronage, en fait, qui n'étaient pas tous les mêmes et pas tous mis au même diapason.
Alors comment tu expliques que, parce que c'est pas la première fois qu'on rencontre ça dans les émissions que nous avons fait ensemble, où il y a une espèce de reconstruction historique a posteriori en disant qu'il y a eu tel discours là, qu'il y a tel personnage est passé par ci. Est-ce que c'est
Oui,
parce que ça fait bien de dire que Jean
oui,
Jaurès a parlé devant 8 000
oui,
personnes, place de la République, qui
oui,
n'est
oui,
pas la place de la
oui.
République
Eh
en
ben oui, ben là je
français?
rentre complètement dans ce que tu viens de dire. Et tout à fait, oui, bien évidemment, il s'est plus pimpant de dire que Jean Jaurès est passé par Armentières et était resté à Armentières et que ça s'est fait au peuple, enfin, place Jules-Guillette, que de dire qu'il est fait que passer, qu'il n'est pas resté. Bah évidemment, donc tout ça a été mis un peu en avant. Alors il y a eu, je sais que. Il y a une grande toile au salon d'honneur de la mairie d'Armentières où on voit Jean Jaurès passant avec des gens autour de lui. C'est une photo qui avait vraiment été prise à l'époque, en 1903, quand il arrive. Il y a une photo qui avait été prise avec Jean Jaurès qui rentre dans Armentières. Mais c'est la seule fois où on peut confirmer que Jean Jaurès est dans Armentières. Le reste du temps, il n'est plus là du tout. Il va vivre à Houplines. Et après, quand il a fini à Houplines, d'ailleurs, il repart dans la gare d'Houplines, qui est pas loin. Il y a une gare à Houplines, hein, de chemin de fer. Et il reprend le chemin de fer pour retourner sur l'île. Je ne sais pas du tout. S'il a passé 5 minutes, enfin, oui, s'il a passé une demi-heure à Armentières, c'est beau, quoi. Donc, mais il y a beaucoup de choses.
Mais il n'est pas rare à l'époque, on
Oui, on
s'approprie.
s'approprie. Il y a des tas de choses comme ça. Hein, ou on ne va pas en parler. Par exemple, d'autres gens qui sont passés, qu'on veut pas en
Oui, ou
parler.
l'inverse, oui.
Ça arrive.
Alors, sur cette place de la République, va être construite une église assez grande,
Oui.
voilà. Et cette église, là aussi, il se racontait à l'époque que c'est parce que l'église Saint-Va était trop petite pour accueillir tous les fidèles de la ville. Armentières était donc une ville totalement tournée vers le catholicisme.
Oui, alors c'était un peu aussi une demande des patrons à l'époque. D'ailleurs, dans toutes les usines textiles, il y a un Saint-Georges qui représente en fait le patron du textile, en fait, qui est un peu en tout cas le patron d'une entité industrielle qui est là. Les patrons sont très catholiques. C'est souvent des gens qui sont assez prononcés là-dessus.
C'est le cas dans tout le Nord, hein,
Oui,
on va dire.
c'est mis un peu en avant. Et puis donc du coup, l'ouvrier, même s'il n'est pas trop comment dire, pratiquant, on l'oblige un peu à venir. Alors l'église Saint-Va, petite, je pense que c'était une église normale, qui n'avait pas plus ni moins. Elle avait été rénovée au milieu du 19e siècle, hein, en 1852. On avait même changé la flèche qui était à l'époque au milieu, on l'avait mis plus en avant du côté de la rue du Curé. Bon, ça c'est encore une autre histoire, on verra ça plus tard. Mais par contre, l'église Notre-Dame, elle est faite toute neuve quasiment. Elle est là surtout parce que c'est les patrons qui le demandent en fait. Ils veulent avoir leur église à eux et ils veulent aller pas se mélanger avec le peuple à Saint-Va. Ça les embête. Donc après, a priori, c'est autant faire une église à côté des maisons, comme ça on n'a pas,
L'église de la rue des Châteaux.
voilà, derrière les châteaux, comme ça on n'a pas à se déplacer, on n'a pas à aller courir sur la grande place d'Armentières, et on peut être tranquille et aller entre nous. Et puis d'ailleurs, ce qui va faire toujours le quartier Notre-Dame, hein, qui va toujours être vu comme ça, avec un quartier un peu haut niveau, maison grande, patron, qui va le servir pendant quasiment un siècle, et puis qui va le desservir finalement, puisque plus tard, les municipalités qui vont s'engager vont souvent essayer de pas de le réduire, mais de le transformer plus en rue normale, parce que bah, il y a une forme de bourgeoisie qui s'est installée, et ça plaît pas à toutes les municipalités.
Alors cette église Notre-Dame qui est donc installée donc sur cette place de la République, elle lui donne une certaine majesté
Oui.
à cette place. Elle a un clocher de 72 mètres.
Ouais.
Elle fait un petit peu concurrence quand même
Ah
à l'église Saint-Va.
oui. Et puis surtout, elle n'a pas eu de chance parce que bon, elle est construite, elle est bénie en 1879. Donc c'est une église qui est assez, qui est quasiment neuve en fait au début du XXe siècle. C'est une grande et belle église. Derrière, il y a les établissements Saint-Joseph aussi qui sont quasiment la toute première école qui a été faite sur Armentières, en tout cas qui date du 19e et qui est à l'endroit où on a créé toute la partie, en fait c'est la base de Saint-Jude, hein. Saint-Jude va être créé à cause des églises Saint-Joseph et donc et des frères chrétiens qui vont s'installer dans ce petit bâtiment qui, d'ailleurs, pendant la Grande Guerre, sera transformé en milieu hospitalier. Alors, l'église Notre-Dame, elle vit très bien sa vie jusqu'en 1914. Et puis, malheureusement, elle va se retrouver en plein milieu de la ligne de conflit. Elle va être assez abîmée, en fait, en 1916 parce que l'occupant allemand est persuadé que... l'armée allemande est persuadée que les occupants anglais s'en servent pour faire une tour d'observation pour regarder la ligne de front. Puisque Armentières est très plate, et malheureusement, on pense que toutes les églises ou les cheminées servent de tour d'observation. Donc, en juillet 1916, l'armée allemande va s'acharner à bombarder en fait l'église Notre-Dame. Ils vont réussir à toucher la flèche qui va s'écrouler sur elle-même. L'église va avoir beaucoup d'impacts qui vont faire que, on parle d'à peu près d'une cinquantaine d'obus, de 150 mm qui vont tomber dans l'église, qui vont détruire une grosse partie de l'intérieur. Elle sera plus du tout viable dans le sens où les poutres et tout ça risquent de tomber, donc on va plus faire d'office dedans. On va faire les offices dans la petite chapelle de l'établissement Mailleux qui est derrière, en fait.
Dans un petit bâtiment en
tout
bois.
Tout à fait, ouais, ce qu'on appelle les pauvres sœurs qui ont installé en fait une chapelle. Et on va faire ces offices dedans. Et en octobre 1918, quand l'armée allemande va quitter Armentières lors de leur retraite, vont tout d'inanité en fait l'église Notre-Dame qui va se retrouver complètement par terre. En ruine, il ne restera plus rien. La flèche sera complètement anéantie. Déjà, le peu qui restait, là, c'est vraiment par terre. Parce que je pense que si les Allemands n'auraient pas d'inanité à l'époque l'église Notre-Dame en octobre 1918, on aurait pu la reconstruire dans son jus, en fait. Bon, alors après, voilà, elle sera reconstruite dans les années 20, hein, enfin 27. Elle arrive en 27-24, à peu près. Hein, donc, en
1924 et 1928.
Ouais, en 27, elle est finie quasiment. Et d'ailleurs, elle sera mise, alors ça, c'est un peu rigolo, avec de la pierre de Strasbourg, du marbre de Strasbourg.
Et oui, parce qu'elle avait été construite au départ dans un style néo-gothique, oui, pour donner un petit côté moderne, assez aéré. Et puis, quand on va la reconstruire, eh bien là, on va revenir au style de gothique classique.
Classique, mais d'ailleurs, qui est une copie conforme de Notre-Dame de Paris. Hein. C'est en plus petit, évidemment, mais qui est une copie un peu conforme de Notre-Dame de Paris. Alors, elle sera pas trop abîmée pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a de la chance. Pour la petite anecdote, lors de la Seconde Guerre mondiale, la place de la République a failli plus s'appeler la place de la République, puisque à l'époque, il y avait sur la grande place d'Armentières ce qu'on appelait le bureau anti-bolchevique, qui était installé aux 19 grandes places d'Armentières, qui était donc c'était le comité anti-bolchevique qui avait été créé par un monsieur qui s'appelait Léon Houlier. Et Léon Houlier était un énorme collaborateur très zélé avec l'armée allemande, hein, lors de l'occupation. Et il décide en 1943, il envoie la commandanture, qui est d'ailleurs au 31 rue Sadi Carnot, hein, qui était installé à proximité de la grande place d'Armentières, il envoie la commandanture, la demande et l'autorisation de pouvoir appeler la place de la République et d'enlever la plaque et de l'appeler place du maréchal Pétain. Donc on a failli avoir la place du maréchal Pétain en 1944. Heureusement, la libération va arriver en septembre 44, ce qui va éviter de se retrouver. Mais il faut savoir que entre fin 43 et début 44, il n'y aura pas de plaque, en tout cas il n'y a pas de nom de la place de la République, puisqu'elle a été enlevée par Léon Houlier, qui d'ailleurs se gargantué de l'avoir mis dans son établissement la grande place d'Armentières, et de dire aussi bien aujourd'hui officiellement ça sera la grande place du maréchal Pétain.
Triste personnage qu'on a eu, oui, l'occasion d'évoquer lors de l'émission que nous avions faite autour du réseau La Voix du Nord.
Tout à fait.
On écoute Teamed Up sur FL Radio avec un titre qui s'appelle justement Place Espoir.
Elle a vu tant de poèmes et tant de promesses. Elle a vu des matins blêmes et des soirées d'ivresse. Elle a vu tant de feuilles mortes et tant de roses fleurs. Elle a su être forte et consoler les cœurs. Elle a vu tant de printemps et de jours qui se lèvent. Elle s'est blottie sous le vent, languissant que s'achèvent les lubies, les chimères, les envies éphémères, les rêves de demain et d'avenir en commun. Elle a vu tant de sourires et tant de gens qui s'aiment. Elle a su faire grandir tout ce que l'on y sème. Elle a vu tant d'espoir, de lutter, de combat, incarné en visage, tombé dans l'anonymat. Elle a vu tant de ciel et tant de soleil, d'enfants qui s'émerveillent et d'amants qui s'éveillent. Elle a vu des mirages de courtes étincelles. Elle a vu des présages et des langues qui se mêlent.
Vous écoutez toujours Un jour, une histoire sur FL Radio. Nous sommes toujours en promenade avec Hans Landler dans la rue Carnot, la place de la République. Et on va continuer un petit peu notre promenade dans cette rue pour arriver jusqu'en face de l'hôpital.
Eh oui, l'hôpital Armentières.
Qu'on a longtemps appelé l'hôpital civil.
Tout à fait, mais c'était d'ailleurs ce qui était marqué sur la devanture lors de sa création. En 1882, le mot était marqué « hôpital civil », c'était marqué noir sur... Enfin, en tout cas, sur une grande plaque en ciment, et les gens rentraient à l'intérieur du bâtiment qui était marqué « hôpital civil ».
Alors, est-ce qu'il y a toujours eu un hôpital à Armentières ?
Alors oui, mais pas du tout dans le même endroit. Au départ, le premier hôpital qui a été créé, date à peu près du XVIIe siècle, un petit peu avant aussi, puisqu'il y a eu des balbutiements un peu partout. Les couvents faisaient souvent office de milieu hospitalier, ils se soignaient. Il y avait un hôpital, un petit milieu hospitalier qui existait sur la place du marché aux toiles, qui finalement va pas survivre à la révolution de 1792. Souvent, c'est les sœurs en fait qui reprennent la première partie. Et ce qui va se passer, c'est que sur la grande place d'Armentières, on va créer donc un tout petit hôpital qu'on appelait à l'époque l'hôpital Saint-Va, hein, le vieil hospice qui était équipé de 120 lits, juste à côté. Il y avait d'ailleurs une partie enfin, c'était pas un hospice, mais c'était un orphelinat où il y avait une soixantaine de lits pour les orphelins de la ville Armentières. Et le personnel s'imitait à 9 infirmières, il y avait 9 servantes et que 2 médecins, et qui devaient s'occuper de toute la logistique pendant. Donc, c'était vrai que cet hospice-là va être abandonné à la fin du 19e et au début du 20e, et on va s'installer donc à l'hôpice civil de l'hôpital d'Armentières, qui sera d'ailleurs créé au départ avec que 3 gros bâtiments, C'était des gros pavillons et qui composaient exactement une centaine de lits. Donc c'était intéressant parce que pour l'époque, ça permettait quand même pas mal de. Il y avait. C'était pas des chambres individuelles, c'était ce qu'on appelle des gros.
Des dortoirs,
en fait. Et le drame, c'est que du coup, on était encore dans la phase des pathologies du choléra, qui étaient des choses qui s'attrapaient assez hygiéniquement parlant. Donc du coup, il a fallu qu'il y ait eu un arrêt préfectoral de 1909 pour qu'on dise on arrête de faire dormir les gens dans les réfectoires et on va installer, si c'est possible, une chambre fiévreuse. Donc il y avait une chambre d'isolement fiévreuse qui va s'installer à partir de 1909. Et on va même demander à mettre un peu plus de médecins. Donc en 1910, des deux médecins, on va demander à un interne de venir travailler, ce qui était à l'époque un événement, un interne formidable, qui va arriver en 1911 et qui va commencer à s'installer. Alors, il faut bien imaginer que cet hôpital de 1882, il a un confort un peu particulier. Hein. C'est pas du tout l'hôpital qu'on connaît aujourd'hui avec toutes ces structures et ces, comment dire, ces modernisations qu'on voit. Par exemple, il faut savoir que il y a eu une anecdote qui dit que bon, en 1909, il y a un type qui se plaint parce qu'il faut comprendre. C'est quand même ennuyeux pour les malades. Il n'y a qu'un seul robinet pour se laver. Donc, ils doivent aller se laver soit dans la cour, soit au robinet qui est posé près des cuisines. Donc, pour tout l'hôpital, 100 personnes qui doivent se laver tous les matins avec son petit... Quand vous êtes malade, c'est un peu particulier. Donc, vous imaginez un peu, l'hygiène à l'époque, c'était pas très important de se laver, en fait, finalement. Et donc, les gens restaient sales. Quoi. Ça devait être assez terrible, cette époque-là. Bon, alors... L'hôpital va s'améliorer. On va créer, dans les années fin 1910, un petit pavillon chirurgical qui va être quand même pas mal parce que ça va donner un avantage assez important à l'hôpital d'Armentières. Mais bon, voilà, la Première Guerre mondiale va arriver et là, on va vraiment connaître.
Alors là, il va prendre une importance stratégique cet hôpital puisqu'il va devenir un hôpital militaire.
Oui, alors il y aura encore du personnel civil qui travailleront dedans. Il faut savoir que l'armée anglaise qui va s'installer à Armentières à partir de 1914 va s'orienter sur quatre lieux particuliers d'Armentières. L'hôpital civil en fait partie, évidemment, mais il y a trois endroits qui seront ce qu'on appelle les ambulances. Alors, l'établissement Saint-Joseph, comme on en parlait tout à l'heure, il y a eu aussi Saint-Jude qui va servir d'ambulance et une partie à l'époque qu'on appelait l'École nationale professionnelle, donc l'EFEL, qui va servir aussi d'ambulance à l'intérieur de ces... Mais chaque fois que les bombardements vont de plus en plus intenses, on perd une ambulance en quelque sorte. La dernière des dernières va rester Saint-Joseph, qui va rester jusqu'à 1917. D'ailleurs, c'est là où les derniers intoxiqués au gaz hyperite vont arriver sur des colonnes de 800 à 900 personnes aveugles en train de se tenir en randonnion pour pouvoir arriver jusque-là. Et là, on va les évacuer sur Hasbrouck. Et l'hôpital d'Armentières, lui, va survivre en fait à ces bombardements. Ça va être assez terrible. Hein. L'antenne chirurgicale qui sera mise en place et le pavillon chirurgical va complètement être anéanti par les incendies, sera détruit. Les derniers jours de l'administration municipale d'Armentières vont vivre dans les caves de l'hôpital d'Armentières. Chasse en parle d'ailleurs dans ses courriers, hein, c'était le maire de l'époque. Il explique le terrible bombardement de septembre 1917 où il vit dans des catacombes avec des soldats anglais qui sont apeurés par les bombardements. Ils espèrent que c'est pas trop de gaz parce que sinon ça va rentrer à l'intérieur du bâtiment puisque le gaz est beaucoup plus lourd, donc il s'enfonce dans les caves. Et donc c'est un vrai drame pour lui. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il avait été récupéré rue Sadi Carnot puisqu'il habitait rue Sadi Carnot, comme tout à l'époque les grands bourgeois, puisqu'il était lui-même patron d'un tissage qui était basé à Houpline. Il va récupérer parce que sa femme le harcèle, parce qu'il a oublié de récupérer tous les affaires de son épouse. Donc il va récupérer en septembre, malgré tous les pyrites qui est tombé en juillet 1917, il va récupérer le linge de son épouse, qui est imbibé de gaz toxique hyperite. Et quand il va revenir avec la malle remplie des affaires de son épouse, il va demander à sa bonne, puisqu'il habite à Hasbrouck à cause des bombardements, il s'est retiré sur Hasbrouck, il va demander à sa bonne de laver tout le linge. Et bien sa bonne, malheureusement, va en mourir, intoxiquée par les gaz, parce que les habits de la... De la femme de chasse avait été imbibée de gaz.
Alors, que va devenir cet hôpital au fil des années. Pendant la guerre 39-45, il ne souffrira pas trop.
Pas trop, il sera récupéré par l'armée allemande. Alors il va être complètement reconstruit dans les années 20. On va commencer à vraiment l'améliorer à partir de 32. La première chose qu'il va avoir, ça sera donc le pavillon chirurgical va être recréé, reconstruit sur son emplacement. On va créer une maternité, ce qui est à l'époque un grand événement en 32, donc c'était assez important. On va mettre surtout une conséquence, c'est que les trois bâtiments qui vont être reconstruits de façon sur le même emplacement vont avoir un système d'aération assez particulière qui sera reconnu dans les années 20 et qui sera accepté en fait par la communauté médicale qui penseront que c'était vraiment une bonne augure d'avoir fait ce type de en tout cas de système de respiration qui va permettre aérer et qui va éviter les intoxications des pathologies qui peuvent arriver dans ces types de bâtiments. Jusque dans les années après la Seconde Guerre mondiale, il servira beaucoup lors de la libération. Il va être étonné, ça va être étonnant. Pour la petite anecdote, mai-juin 40, ça va être un hôpital qui va servir de premier rempart, puisque c'est le seul endroit où on peut positionner les blessés. Hein, avec les bombardements de mai 40, Armentières, qui a beaucoup souffert entre le 24 mai et le 28 mai 1940, il y a eu. On parle de plus de 178 morts. Hein. Il faut savoir le nombre de blessés qu'il y avait à l'époque. Les morts de la rue du Nord, qui vont être tués par une bombe de Stuka de 250 kilos, vont être installés sur la pelouse devant comment dire, devant l'église notre, enfin, devant l'hôpital d'Armentières. Et les gens devront venir voir pendant quelques jours. Les corps pour pouvoir comment dire, les identifier, parce qu'on est certain qu'on n'arrive pas à identifier. Donc on pourra les reconnaître soit à leurs chaussures ou leurs vêtements, ce qui est un moment terrible pour l'hôpital d'Armentières à cette époque-là. En fait, l'hôpital d'Armentières va être complètement reconstruit en 1988. Hein, on va tout détruire, en fait, l'ancien bâtiment, qui ne sera complètement rasé. On va garder la partie de la pédiatrie, de la maternité qui est à l'arrière, qui est aujourd'hui la pharmacie. La maternité, elle sera refaite dans les années 50, on va la garder aussi. Et du coup, aujourd'hui, on a un hôpital qui est complètement refait, hein, qui a plus du tout la même tête qu'il avait à l'époque, en 1882.
Alors, c'est une bataille dans toutes les villes moyennes pour garder son hôpital. Armentières a-t-elle été menacée de le perdre au cours de toute cette histoire?
Oui, d'une certaine façon, en fait, finalement. Mais c'était un peu insidieux. Ça s'est fait dans les années 1980. En fait, il faut savoir que l'île qui prenait de l'ampleur, Armentières n'avait pas du tout la capacité de pouvoir grandir, puisque l'île était en train de grandir, puisque Oscar-en-Bray, tous les bâtiments nouveaux qui ont été faits, Corpoumont, toutes ces choses, étaient assez énormes. Et ce qui s'est passé, c'est que Armentières s'en est sorti à cause d'une petite chose assez étonnante, grâce au SMUR. Alors, et la réanimation. Alors, il faut savoir que Hasbrouck devait avoir un SMUR. C'était là l'endroit, en tout cas, le plus adapté par rapport à la conformité que devait avoir un SMUR par rapport
au
territoire.
Couvrir.
La préfecture de Lille, qui est donc la maison SAMU, qui est la maison mère, va mettre des SMUR dans les périphéries des hôpitaux, au plus près, dans les territoires un peu abandonnés en quelque sorte, où ils peuvent intervenir au plus vite et au plus près. Armentières est à côté de Lille, donc il y a un SMUR à Lille, donc il n'y a pas besoin à 15 km de créer un autre SMUR. De ce fait-là, on va dire que ce serait plus intéressant de le mettre à Hasbrouck. Or, à l'époque, le directeur de l'hôpital d'Hasbrouck, qui est un capitaine des pompiers d'ailleurs, c'est un peu son, il est réserviste dedans, dit: mais moi, j'ai pas besoin d'un SMUR.
Il n'y croit pas.
Il n'y croit pas. Il pense que les pompiers, ça va très bien faire l'affaire. On ramène tout à l'hôpital d'Hasbrouck, donc il n'y a pas besoin. Donc, du coup, pas de SMUR, en tout cas refusé à l'hôpital d'Hasbrouck. Et Armentières dit: nous, on en veut un. Et du coup, on va créer le SMUR d'Armentières. Du coup, l'hôpital d'Armentières, il lui faut, parce que s'il y a un SMUR, il faut une réa. Donc, on va créer la réanimation, qui arrivera beaucoup plus tard. Mais grâce à ça, et je tiens à citer son nom, Madame Baestrasi, qui s'est battue à fond pour pouvoir créer ce SMUR, pareil, il va permettre de faire survivre en fait l'hôpital d'Armentières.
Voilà donc l'histoire qu'on voulait vous raconter aujourd'hui, donc de cette rue Sadi Carnot, de cette place de la République, de l'hôpital. On va terminer peut-être sur un mot. Derrière cette rue, cette place de la République, cet hôpital, il va y avoir encore des constructions. Armentières va s'étendre encore, mais sur un quartier qui sera plus ouvrier.
Oui, tout à fait. Alors, qu'on part à gauche ou à droite, on va tomber d'abord sur des usines, puisque plus on va dans les périphéries d'Armentières, plus des usines se construisent. Et puis, il y a la rue Jules Le Bleu qui est à proximité et qui, là, va aussi être, qui est remplie d'anecdotes. D'ailleurs, son premier nom, c'est la rue Chèche. Et je vous expliquerai plus tard pourquoi.
On aura l'occasion de parcourir cette rue Jules Le Bleu, qui est une des rues où il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses également tout au long de l'histoire d'Armentières. Merci Hans pour toutes ces anecdotes. On espère que cette balade historique dans les rues d'Armentières vous a plu. Un grand merci à Kevin qui était sur les platines aujourd'hui, derrière la console. Un jour et une histoire est un rendez-vous que vous pouvez retrouver le lundi de 20h à 21h sur FL Radio. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission en podcast sur le site internet de la radio. N'hésitez pas à réagir également sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn ou X. On se retrouve quant à nous très très vite pour une nouvelle balade dans Armentières.